When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Le point. C'est un souvenir ancien. Si ancien qu'il pourrait simplement avoir été inventé. Dans la salle à manger de ma grand-mère, à la Villa Idali, un immeuble de 6 étages où nous vivions dans un appartement mansardé de 3 pièces, ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon frère et moi, la voix de mon grand-père résonne étrangement. C'est une voix basse, enrouée de ce perpétuel enrouement des gros fumeurs. Une voix chantante, avec l'accent un peu traînant et monotone du créole mauricien. Je l'écoute et je suis au bord du sommeil. Nous avons traversé la guerre, les moments dramatiques et drôlatiques. Mon grand-père refusait de descendre à la cave lorsque la sirène d'alarme annonçait un bombardement. Nous y descendions, ma grand-mère emporterait une bouteille d'eau et une bougie, l'odeur de la sueur de bois moisi, de la poussière de charbon, mais il y avait longtemps qu'on ne trouvait plus de boules de coke. La pénombre, peut-être la rumeur des bombes, comme un tonnerre lointain quelque part sur la plaine du Var. Pourquoi, de toutes les chansons chansonnettes que ma grand-mère nous chantait pour nous rassurer, pas pour nous endormir mais pour nous garder éveillés dans le noir de la cave, pourquoi celle-ci que je n'ai pas oubliée ? Mot passé, la rivière Tanier, rencontrer une vieille grand-maman. Maudire li qui l'y faire là, li dire mot, li la pescabo. Cela ne venait pas d'elle. Ma grand-mère n'était pas créole, elle était née dans l'est de la France, à Borieux, dans une plaine de betteraves. Il n'y avait pas là-bas de rivière Tanier, ni de cabot dans aucune rivière. Il y avait seulement la langue picarde, les chansons de France, les effets dodo, les colas, les moulins, les arlequins et les polichinelles, et surtout pas cette voix traînante, chaude et mélancolique, cette voix de vieille nénène noire, cette voix de nuit chaude, zébrée d'insectes, de nuit noire, d'arbres géants bougent les chauves-souris. Il n'y avait pas ce refrain triste et lent qui disait la fatalité de l'exil, le voyage sans retour. Why, why, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain. Why, why, mes enfants. Je l'écoute. Et je sais que c'est la voix de mon grand-père qui parle par sa gorge, cette voix grave et chantante qui dit le seul poème créole que j'ai jamais connu, le poème qui vient du fond des âges, du fond de la ravine où les travailleurs noirs sont enfermés le soir, du fond de la gorge des femmes qui font téter leurs bébés. Et je sais que c'est ce lait que mon grand-père a bu dans son enfance, ce lait blanc de la nénène noire, et qu'il a bu avec le lait les paroles du chant mélancolique des serviteurs et des servantes. Grandi moun qui wa péfer, ça qui vieille reste dans la case, li dire mot, mot bien misère, mon a tout mot courage. Why, why, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain. Why, why, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain.
Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio pour cette lecture, donc cet extrait qui provient de la 6e des 8 nouvelles de votre recueil « Avert », sous-titré « Des nouvelles des indésirables ». Alors, comment cette nouvelle, clairement autobiographique, enfin, même si vous dites « souvenir » ou peut-être « réinventé » tellement il est loin, comment cette nouvelle autobiographique s'est-elle inscrite dans ce recueil ?
Au début, je ne pensais pas la mettre, et puis ça s'est imposé à moi comme étant en effet une sorte de pivot pour ce livre, parce que c'est un livre qui mélange des souvenirs propres, des émotions que j'ai reçues quand j'étais enfant, mais aussi quand j'étais adulte, des émotions dues à la guerre. J'ai vécu pendant la guerre, et je me souviens en effet que ma grand-mère chantait cette comptine, cette berceuse, pour nous calmer. C'était en effet parce que c'est un chant très mélancolique, très lent, très mélancolique. C'est pas, je l'ai entendu par la suite interprété par des chanteurs de Sega, mais c'était pas du tout le rythme du Sega. C'était vraiment un chant d'esclaves, un peu comme les blues qu'on chantait aux États-Unis. Et donc cette voix était importante pour moi, mêlée à ces souvenirs de guerre. Et ces souvenirs de guerre me reviennent régulièrement parce que malheureusement il y a la guerre. Nous vivons en ce moment une guerre très proche de nous, mais il y a les guerres en Afrique, il y a des guerres au Moyen-Orient, il y a même des guerres larvées et souterraines en Amérique et dans le Pacifique. Et cette impression que cette rumeur de guerre qui nous entoure, cette rumeur qu'on perçoit tout le temps et qui de temps en temps est plus aiguë, de temps en temps plus forte, j'ai besoin de la combattre avec ce souvenir de cette chanson qui était apaisante et qui, parce qu'elle était mélancolique, se conjuguait bien aux temps difficiles. Donc j'ai pensé en effet qu'à un moment donné, il fallait que cette nouvelle apparaisse. Je l'ai écrite il y a assez longtemps, et ensuite je l'ai insérée dans ce recueil, qui est assez disparate, parce que la plupart des contes ont été écrits à des époques différentes. Ils se ressemblent parce que ce sont les mêmes impulsions que j'ai ressenties pour les écrire. Écrire doit servir un peu à ça, à freiner le passage du temps, parce que entre les périodes où j'écris, ce qui n'est pas le cas là maintenant, j'ai repris un travail, mais pendant les mois pendant lesquels je n'écris pas, j'ai l'impression que le temps devient tout à coup très, très long et vide, vide de sens. Donc écrire sert à faire passer le temps. Et ça met des jalons dans le temps, ce qui est bien aussi.
Donc là, vous n'êtes pas entre deux, vous êtes déjà reparti.
Oui, oui. J'ai comme une superstition. J'ai sur ma table, parce que moi je dors à côté de la table sur laquelle j'écris, un peu une cellule de moine, et donc je laisse le manuscrit ouvert avec une phrase qui n'est pas terminée, en me disant comme ça, demain je vais pouvoir continuer. Si je termine la phrase, ben, je vais mourir dans la nuit, ou bien je n'aurai plus d'inspiration, tandis qu'en laissant la phrase ouverte, comme une porte ouverte, ça me permet de rejoindre celui que j'étais la veille. Et c'est des manies d'écrivain, ça.
Mais c'est récent et dû au passage du temps, ou ça a toujours été
ainsi ? Non, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé avoir un manuscrit inachevé, pas loin de moi. Et en revanche, quand je lis un livre, je dois fermer le livre, parce que sinon, je pense que je ne vais pas pouvoir quitter, dormir, être dans le silence. Il faut fermer les livres et ouvrir les manuscrits. Bon, c'est des manies.
et quel est le livre que vous lisez actuellement ?
Je n'ai pas encore vraiment défini, parce que j'écris deux histoires conjointes. Une histoire dans laquelle je raconte un souvenir que ma mère me racontait, qu'elle écoutait dans la forêt le bruit des obus que tirait la grosse Bertha sur Paris. Elle avait à l'époque 6 ans ou 7 ans, et on entendait le sifflement. Longtemps après, on entendait la détonation du canon, qui était le plus gros canon qui a jamais été construit par les Allemands, mais par tout le monde, et qui tirait des obus à 150 km. Et ces obus tombaient sur Paris. Et de temps en temps, je vais à Paris voir les endroits où ils sont tombés. Il y a des endroits où on a laissé la trace de... Il y a un endroit sur le quai, près de la bord de la Seine, où il y a encore la trace de l'obus qui est tombé, envoyé depuis la Marne, en fin de compte, c'était loin. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est une sorte d'utopie dans laquelle je voudrais raconter que des gens décident de vivre dans la forêt, et ils laissent la ville et vivent dans la forêt. Ils essaient d'organiser la forêt pour qu'elle soit vraiment accueillante et qu'ils ne risquent pas d'être expulsés par les gardes champêtres. Et j'ai cherché une forêt aux alentours de Paris. J'ai trouvé celle de Hermenonville, parce qu'il y a une grande partie qui est à l'état sauvage, et en particulier un endroit qui s'appelle Mortefontaine. Je ne sais pas si vous voyez cet endroit.
Oui, à peu près.
Ça a été peint, je crois, par Corot, par Monet. Je crois que c'est Corot qui a fait un tableau de Mortefontaine que j'ai vu autrefois au musée de... Donc je fonctionne comme ça avec des points de repère.
Et c'est du survivalisme un peu, comme on dit maintenant les romans
ça, je ne connais pas cette école. Ouais, c'est vrai, ça existe, survivalisme. Ouais. Non, c'est Walden. Moi, j'aime bien Walden.
Ah, oui.
J'ai enseigné Walden à des Coréennes. Et c'était... Je ne l'avais pas lu dans le détail, c'est vraiment bien Walden.
Mmh. Walden en Corée.
Walden en Corée, oui. La vie dans les forêts. Il n'y a plus beaucoup de forêts actuellement.
Mmh. Alors, ce recueil, il est aussi uni, mais on l'a déjà dans Chansons bretonnes et dans d'autres livres, par ses chants, ses poèmes, ses contes, qui voyagent comme ça d'une nouvelle ou d'un conte à l'autre, qui unissent les êtres, qui établissent des liens, qui réveillent des personnages, qui font fi de la mort, hein, on communique comme ça. Et jusqu'à la fin, avec Yoni, celui qui retrouve son origine indienne, à travers aussi un poème. Donc je voulais savoir si c'était cette base qui avait servi, cette harmonie pour composer ce recueil, ou comme vous venez de dire, je l'ai inséré parce que... Est-ce que ça fait partie du « parce que », ce thème récurrent du langage qui court ?
Oui, j'ai voulu que ça s'appelle « Avers », parce que pour moi, c'était vraiment la question de qu'est-ce qui est marqué sur notre visage ? Où est-ce que notre visage apparaît ? Est-ce que nous avons quelque chose qui montre aux autres ce que nous sommes ? Par visage, je veux dire pas seulement les traits physiques, mais ce que nous sommes. Notre nom, quelquefois des dates, quelque chose qui nous identifie dans le cursus humain qui est multiple, dans lequel il y a tellement de visages, tellement de dates et tellement de noms. Et ce quelque chose, cette identité que je voulais dire, elle est liée à des passages dans ma vie et à des expériences que j'ai vécues. Et qui avait trait à des aspects de ma personne, mais des aspects des autres que je ne connaissais pas, que je cherchais à découvrir de cette façon. Et la dernière de ces nouvelles dans le recueil, c'est aussi la dernière que j'ai écrite. Je l'ai terminée il y a trois mois, juste avant de donner l'ouvrage. Je n'étais pas sûr que j'allais la mettre, parce que l'histoire de ce garçon que j'ai connu, et qui a changé de personne en l'espace de quelques mois, il est devenu quelqu'un d'autre grâce à la forêt, ça me parlait énormément. Cette idée qu'on peut changer complètement, on a été quelqu'un, mais on peut devenir quelqu'un d'autre, de bien ou de mal d'ailleurs, on peut devenir quelqu'un de très positif ou quelqu'un de très négatif, ou simplement changer d'origine, changer de nature.
Alors il faut, puisque nous y sommes, entrer un peu dans cette forêt avec vous. Et cette forêt, c'est la forêt du Darién au Panama. Évidemment, je ne prononce pas correctement le nom. Et la nouvelle s'appelle Etrebema. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler comment vous vous êtes retrouvé dans cette forêt, à quel moment de votre vie, et si vous-même, il vous est arrivé quelque chose de l'ordre de ce qu'il arrive à Yoni?
Oui, c'est un souvenir assez lointain, parce que j'ai vécu dans cette forêt il y a peut-être maintenant 40 ans, quelque chose comme ça. Et je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas écrit sur ce thème-là du tout. Je devais le faire, j'avais commencé à le faire, et puis j'ai arrêté parce que je ne sentais pas que... Je n'avais pas l'impression d'avoir le droit de le faire. Ce n'est pas parce que vous allez dans un endroit que vous avez le droit d'écrire sur cet endroit. Surtout que cet endroit est tellement différent de ce qui m'a éduqué, de ce que je suis. Mais en écrivant la nouvelle, je me suis souvenu en effet que j'avais changé moi-même quand j'étais là-bas. J'étais en train de devenir quelqu'un d'autre. Je me souviens de cette impression qui a été peut-être accentuée par une expérience dans laquelle j'ai bu du datura, qui est une Datura stramonium, qui est un poison violent, mais que les Indiens utilisent pour savoir s'il va faire beau, prévoir les crues des rivières, et pour avoir accès à Etrebema, c'est-à-dire l'autre monde. Donc j'ai fait cette expérience, à l'époque c'était à la mode, on faisait ça. Mais je n'ai pas voulu écrire sur cette expérience immédiatement. Et donc je me souviens de cette impression que j'ai eue à ce moment-là, d'être sur le pas de la porte de quelque chose. Je crois que j'ai eu ça aussi assez souvent en rêve. J'avance, il y a une porte, je franchis la porte. Enfin, je ne franchis pas, je suis sur le seuil, je vois ce qu'il y a de l'autre côté, mais je n'ose pas avancer. Je reste de mon côté, je ne traverse pas la porte. Et à l'époque, donc, je n'ai pas traversé la porte. Je suis resté de mon côté, mais un jeune garçon avec qui je voyageais, Yoni, qui existe vraiment, lui a franchi la porte, il est allé de l'autre côté. Évidemment, puisque l'autre côté, c'était son monde. Il était dans un monde qui ne lui appartenait pas, dont il ne faisait pas partie, et il franchissait la porte pour entrer dans son monde à lui, dans le monde vraiment auquel il appartenait par l'héritage, par le nom, par la langue, par tout, par les parents qu'il allait retrouver. Et moi, je n'avais rien de l'autre côté auquel je pouvais me rattacher, donc je suis resté sur le pas de la porte. Mais ayant cette position du pas de porte, je pouvais voir, apercevoir, distinguer, pas complètement clairement, mais en partie ce qu'il y avait de l'autre côté. Et donc, voilà pourquoi j'ai terminé par cette nouvelle.
Et qu'est-ce qui vous a amené à ce voyage ? Pourquoi, je sais pas, 20 ans, vous êtes parti dans cette forêt quand même, qui maintenant est clos à la fin d'un recueil où vous êtes un peu plus âgé ?
Oui, c'est un des faits terribles de notre époque. On parle de guerre, il y a des guerres violentes en ce moment, mais il y a une guerre qui dure depuis les années 80, je dirais, dans cette partie du monde, qui est la guerre que les narcotrafiquants mènent au monde, et dont, en France, nous sommes un des derniers aboutissements, mais aux États-Unis, les victimes de les cocaïnomanes, les victimes de trafic de drogue, ils commencent là-bas. Ce sont d'abord les gens qui habitent là-bas, et ensuite, par enchaînement, ceux qui consomment cette drogue, ceux qui participent au trafic, ceux qui se font tuer dans les trafics, ceux qui meurent parce qu'ils en ont trop pris. Donc tout ça, c'est lié, c'est une guerre, et ce n'est pas quelque chose de très optimiste, parce que c'est une guerre qui met fin à un monde, en particulier celui des Indiens Mbera, qui était tout à fait intéressant, tout à fait enthousiasmant même.
Et pourquoi vous avez été là-bas ?
Oui, ça c'était par hasard. Ah. Par hasard, je faisais mon service militaire au Mexique et j'ai rencontré un garçon, j'étais à Mexico, donc j'ai rencontré un garçon, on va au café, on parle, et il me dit, il y a un endroit qui est vraiment, qui te plairait, c'est la forêt du Darién. Il y était allé, il avait juste traversé, il était allé juste un instant. Donc j'avais un peu de temps libre à la fin de mon service militaire. J'ai pris un avion jusqu'à Panama, et là j'ai cherché sur le port de la ville de Panama, j'ai vu un bateau qui partait pour le Darién. Je me suis monté à bord du bateau, et je suis arrivé dans cet endroit, et j'ai été tout à fait étonné de la vie que j'y ai trouvée. C'était très très surprenant. Les Indiens vivaient non pas coupés du monde moderne, ils ont pour la plupart des moteurs sur leur pirogue. Quand ils ont mal aux dents, ils vont chez le dentiste. Ils ont des comptes en banque où ils mettent l'argent qu'ils récoltent en vendant le plantain et le maïs. Mais ils maintenaient une vie en habitat dispersé, très centré autour de la famille, et avec une identité extrêmement forte, physique et mentale. Physique parce que dans une époque où c'est mal vu, ils vont presque nus, il fait très chaud, donc ils considèrent que porter des vêtements leur fait courir des risques de pneumonie. Dès qu'il pleut, les vêtements sont mouillés, on attrape des pneumonies. Donc ils se déshabillent, mais quand ils vont en ville, ils sont obligés de s'habiller parce que la société métisse, qui est en grande partie composée de Noirs qu'on appelle les libres, parce que c'est des anciens esclaves qui ont été libérés, eux exigent qu'ils s'habillent. Ils n'acceptent pas que les gens aillent nus. Et donc il y a une telle différence physique et de comportement entre ces populations, et moi j'ai été séduit par la liberté qu'ils offraient. Et donc ce hasard est devenu, je dirais, une habitude, un besoin. Je suis parti de là, mais après j'y suis retourné, j'ai acheté une pirogue, puis j'ai acheté un moteur, et puis j'ai appris à naviguer sur les fleuves, j'ai rencontré des gens, et donc j'ai passé 3 ans à peu près en continuité là-bas. Et voilà, le hasard fait bien les choses.
Et vous avez parlé de l'esclavage à plusieurs reprises. On dirait que vous êtes toujours un peu dans ce temps de l'esclavage et qu'il y a quelque chose qui demeure. Et on sait qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il y a quelques avancées, disons, sur la reconnaissance de ce crime contre l'humanité. Et même s'il perdure ici et là, sous d'autres formes, est-ce que vous avez l'impression que, au moins de ce côté-là, quelque chose s'améliore dans la prise de conscience de...
Sûrement, ça s'améliore, mais très très lentement. Et régulièrement, on entend dire que c'est la fameuse phrase du « responsable mais pas coupable » qu'on entend régulièrement. Nous en portons la responsabilité, mais nous n'en portons pas la culpabilité. Donc nous n'avons pas besoin de nous racheter. Nous n'avons pas besoin ni de nous excuser, ni surtout de participer à la rédemption des populations qui sont héritières de ce passé difficile. Alors je suis mauricien. Donc étant mauricien, et mauricien de l'ethnie qui a été la première arrivée à l'île Maurice, je prends part totalement au passé esclavagiste. Je ne peux pas m'en défaire, il existe. Je sais qu'il y a eu des esclaves dans ma famille, pas direct, mais la famille un peu éloignée. Et surtout, j'ai découvert, en m'intéressant à la question, que par exemple, mon arrière-grand-père, qui était soldat de la Révolution, soldat, il a combattu à Valmy pour la liberté, et il a acheté 2 esclaves sur le port de Lorient. Donc on pouvait être révolutionnaire, on pouvait vivre l'époque de la Révolution et acheter des esclaves en France. Et quand il est arrivé à l'île Maurice, il les a libérés. Mais c'était difficile parce que quand vous libériez des esclaves, vous deviez payer une amende. C'était puni d'une amende de libérer des esclaves. Et c'était le temps de la Révolution. Donc ça rend les choses un peu différentes. On a l'impression que la Révolution n'a pas répondu à son... Enfin, que les idées ne répondaient pas aux principes de la Révolution. Et donc ça fait partie de ce passé. Et il faut savoir que, non seulement à l'île Maurice, mais à La Réunion, dans les Antilles françaises, et dans beaucoup de ces pays qui ont été... Des endroits où on pratiquait la plantation, aux États-Unis notamment, que les descendants des esclaves ne sont pas bien traités. Ils sont toujours la partie la plus pauvre de la population, celle qui ne prend pas part à la politique, celle qui est maltraitée de tous côtés. Donc il y a quelque chose à faire. Ce quelque chose, c'est l'éducation. Et voilà, donc j'essaye de prendre part un petit peu à l'île Maurice. Je m'occupe avec des amis d'une fondation qui distribue des livres aux enfants des écoles créoles, donc descendants d'esclaves. Nous insistons pour qu'il y ait une cérémonie chaque année pour célébrer la libération des esclaves qui a eu lieu à l'île Maurice en 1830, pas en 1848. Mais il y a peu de choses, on ne célèbre pas. On a un peu honte peut-être. Ou bien on considère que c'est vraiment du passé et qu'on n'est pas responsable.
Alors justement, on va retourner à Maurice à travers le personnage de... Alors justement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, comme par hasard, elle s'appelle Maureen et puis elle devient Maurice parce que sur la pirogue, la lettre s'est effacée. Alors, comment est-ce qu'on prononce déjà le nom de cette héroïne?
Oui, Maurice, simplement. Mm-hmm. Comme Maureen, mais avec un Z.
Alors, Maurice, elle nous ramène en quelque sorte à Rodrigue, c'est-à-dire au chercheur d'or qui a paru chez Gallimard en 1985, au journal qui lui a fait suite, Le Voyage à Rodrigue. Et donc, l'héroïne d'Aver, puisque c'est la nouvelle titre, c'est une orpheline qu'on voit grandir là. Et je voulais vous demander comment ressurgit, là vous l'avez expliqué pour le Darien, mais comment ressurgit dans la mémoire, qui est l'atelier de l'écrivain, un lieu, une personne, à quel moment elle est venue frapper cette Maureen, et quelle est cette île pour vous quand vous écrivez?
Je l'ai rencontrée, elle existe vraiment. Je suis allé visiter un couvent à Rodrigue. Moi, j'aime beaucoup visiter les couvents. Chaque fois que je peux visiter un couvent, pas vraiment les couvents tels qu'on les connaît en France, mais les couvents un peu exotiques, parce que les nonnes de ces couvents-là sont très différentes, vraiment très différentes. Elles sont drôles, elles boivent, elles chantent, elles dansent. Rien à voir avec le côté souvent triste qu'ont les couvents, qu'on peut peut-être voir au couvent des oiseaux. Je ne connais pas le couvent des oiseaux, mais peut-être c'est comme ça. Et en tout cas, les pensionnaires de ces couvents-là n'ont pas toujours un très bon souvenir. Mais il y a une écrivaine qui en parle bien, c'est Scholastique Mukasonga. Elle parle du couvent dans lequel elle a grandi. Et quand je lisais son livre, ça me parlait vraiment beaucoup, parce que j'ai visité des couvents à Maurice, à Rodrigue, et en Afrique et dans d'autres endroits, et j'ai vu des nonnes joyeuses. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc j'ai rencontré à Rodrigue aussi, là, par hasard, en visitant un couvent, les pensionnaires, qui étaient toutes des filles de familles dysfonctionnelles, familles d'alcooliques, familles incestueuses, vraiment les choses les plus graves qu'on peut trouver dans une famille. Et les filles qui sortaient de ces familles, qui avaient été très malmenées, étaient prises en charge par ce couvent, par ces sœurs extrêmement drôles, un peu violentes parfois, mais toujours très drôles, très réalistes. Et parmi elles, donc, à un moment donné, parce qu'elles savaient qu'il y en avait une qui était étonnante, elles les ont réunies et elles leur ont demandé, je visitais ce couvent avec d'autres personnes, et elles ont demandé aux filles de chanter. Et il y en a une qui a chanté avec une voix extraordinaire, une voix de soprano, et moi j'ai été absolument saisi. Et je lui ai demandé si elle voulait continuer dans cette carrière, mais elle n'a pas vraiment répondu. Pour elle, c'était pas une obligation de se servir du chant. Elle avait simplement ce don, ce talent. Alors peut-être qu'un jour elle va émerger. Peut-être il n'y a pas très longtemps. Peut-être on va la voir arriver dans les concerts. Et j'espère. Donc j'ai voulu parler d'elle. Et elle est restée dans ma mémoire pendant plusieurs années. Puis je dis un jour, il faut que je parle d'elle. C'est un personnage de roman, c'est un personnage de conte. Et ce n'est pas un conte de fées du tout, parce que ce qu'elle a vécu n'a rien à voir. Ou alors, ce sont ces contes de fées extrêmement cruels, comme Peau d'âne, ou même Cendrillon, ou La Belle au bois dormant, des contes assez violents en réalité. Elle a connu la violence.
Oui, elle a connu la violence dans son enfance, qu'elle fuit d'ailleurs. Et alors, il y a deux choses à propos de cette nouvelle. C'est que, encore plus que dans les autres, je trouve, puisque Maurice, elle chante aussi bien en lingala qu'en coréen. Et puis, comme par hasard, c'est de Suède que lui vient une invitation. Donc, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais on a l'impression quand même que vous savez vous amuser avec en mettant des éléments comme ça.
Oui, mais enfin, Christine fait de longs séjours à Maurice, avec son mari, qui est consul de Suède à Maurice, font des longs séjours, et de temps en temps, il repère des enfants intéressants, et les aide à aller étudier dans une école pluriculturelle qui est à Uppsala. Et donc, Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est d'accord. Vraiment... Christine est vraiment là, je l'ai rencontrée. C'est une femme absolument charmante.
Ça n'a rien à voir avec le Nobel.
Bon, elle est de la famille. Elle est de la famille régnante. Mais je crois que c'est une famille qui est tout à fait honorable. La famille des Bernadotte. Et j'ai eu envie d'en parler aussi parce que à Rodrigue, il y a toujours cette légende du trésor et j'ai voulu m'en moquer en disant que la seule partie du trésor qui a été trouvée est trouvée par un crabe qui garde une pièce d'or avec lui. Parce qu'on n'a jamais trouvé le trésor, pas s'il existe, mais j'ai trouvé ça amusant que ce soit un crabe qui le trouve.
En tout cas, ce chemin continue du chercheur de trésors. Et pour revenir aux langues, donc, on vous a entendu lire comme ça du créole. Et c'est Édouard Glissant qui disait, il avait cette formule d'écrire en présence de toutes les langues du monde. Mais on dirait que vous, ça a toujours été comme ça, ou du moins, quand vous écrivez, avec quelle langue écrivez-vous ?
Bon, j'écris en français, hein, ça, il n'y a aucun doute. Je ne peux pas écrire dans une... J'ai essayé d'écrire en anglais, ça n'a pas marché. Donc j'écris en français. Mais Maurice chantait dans plusieurs langues parce que celle que j'ai entendue, celle qui a servi de modèle, chantait parfaitement en anglais, avec un bon accent, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Donc pour elle, c'était juste des sons qu'elle retenait et qu'elle restituait. Mm-hmm. Je pense que la musique peut permettre ça. Et le Lingala est une belle langue, donc j'avais envie d'introduire le Lingala, parce qu'on ne voit pas beaucoup le Lingala dans la littérature française.
Et c'est si beau.
Oui, c'est donc... voilà, donc j'aime beaucoup introduire des langues. Je suis assez fasciné par les langues. Quand je vais quelque part, j'essaye d'apprendre la langue, parce que je fais des voyages qui sont assez longs. Donc j'ai appris plutôt bien le coréen. Et je suis en train d'essayer d'apprendre le chinois, mais alors c'est une des langues les plus difficiles du monde. C'est une langue vraiment difficile parce qu'elle ne répond pas à la structure des langues indo-européennes de la moindre façon. C'est complètement différent. Mais la langue mbéra, qui elle serait plus proche du français pour la structure, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, j'ai pu apprendre assez correctement à baragouiner cette langue-là. Mais donc j'aime les langues. Je sais pas si j'ai un don, mais je retiens assez bien les sons.
Et forcément les imaginaires qu'elles véhiculent.
Oui, 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 c'est vrai. Oui, vous avez raison de le dire. C'est que ce sont des langues qui sont souvent assez imagées. Bon, j'imagine que la langue française, originairement la langue latine, devait être assez imagée. Également, puisque on sait que mot tête en français, ça vient de testa, qui voulait dire une bouilloire pour les soldats romains. Donc, ta bouilloire pour dire ta tête. Bon. Donc, ça, c'était être imagé. Mais souvent, les langues, on dit qu'elles ne possèdent pas d'expression pour l'abstraction, mais ce n'est pas du tout vrai, elles en ont. Et elles sont capables de concepts extrêmement abstraits comme Etrebema, qui est le monde qu'on ne voit pas, qui est sous notre monde. Il y a le monde, et en dessous de notre monde, il y a un monde qu'on ne voit pas, qui est un monde des esprits, de la mémoire, des rêves, du souvenir. Et il est en dessous de notre monde. Donc ça, ils ont un mot pour dire ça. Et nous, on dit inframonde, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant. Et donc ce sont des langues qui sont capables d'abstraction, capables, en tout cas, d'imagination et pour lesquels le rêve est très important. Rêver quelque chose. Le point.
Vous croyez à un monde d'après ?
Oui, je pense que oui. Je pense que oui.
Vous imaginez comment ? Rejoindre vos parents ou
Ce qui me plaît dans l'idée de Etrebema, c'est que c'est un monde qui n'a plus la même logique que le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que le temps n'y existe plus et qu'on peut en effet rencontrer des gens dont on a entendu parler ou pour lesquels on a eu des sentiments il y a très longtemps et d'autres qui sont plus récents et un peu comme dans les rêves. je pense au monde d'après plutôt comme un monde de rêve, un monde qui est détaché de la logique, de la causalité, de la logique, de l'enchaînement. Un monde dans lequel le temps n'a pas la même valeur.
Mais sans religion, sans, il n'y a pas de...
Est-ce qu'il y a une religion dans les rêves? On va demander aux spécialistes, mais peut-être. Qui sait?
Alors, revenons sur Terre. Et quelle Terre? C'est celle de ces enfants des rues de la Pichancha. Alors, cette nouvelle, puisque nous sommes toujours dans Aver, où vous nous donnez des nouvelles des indésirables, il y a ces street rats, donc... On suppose qu'on est à la frontière mexicaine et vous suivez ces gamins jusque dans les égouts, dans des courses-poursuites. Alors là, quand même, on se dit, si vous vous mettez à côté de Maurice, que vous avez rencontré, etc., et qu'à partir d'elle, vous... Mais là, comment arrivez-vous à être presque dans les baskets de ces gamins à la fois délinquants, et vous avez une phrase très musicale pour les dire, ils ont des têtes obtuses et butées de petits durs.
Oui, je les ai vus, j'ai habité pendant une quinzaine d'années au Nouveau-Mexique, mais j'allais très souvent à Juarez, El Paso, et aussi à Tucson, à Nogales, et j'ai vu ces gosses qui circulaient dans les rues. Mais peut-être le point commun à tous ces enfants, c'est un texte que j'ai traduit avec mon épouse il y a longtemps, qui s'appelle « La relation de Michoacán ». C'est un texte ancien écrit par dicté par les survivants des Indiens Tarasques ou Purépecha du Michoacán, dans lequel ils racontent ce qu'était leur vie avant de disparaître. Ils ont disparu, ils sont toujours là, physiquement, mais leur société, leur civilisation a disparu. Et dans ce texte que je traduisais, que je crois être un des grands textes de la littérature universelle, mais simplement qui n'a pas été écrit directement, il a été dicté, recopié par des moines, traduit en espagnol, on a perdu l'original dans la langue, et ce texte-là se trouve actuellement dans la bibliothèque de l'Escorial à Madrid. Sous forme de manuscrits illustrés, écrits à la main avec des illustrations. Très beau texte. Et dans ce texte, il y a l'histoire de deux enfants, qui s'appellent Iripan et Tangachuan, bon, on peut passer sur les noms, qui sont les neveux d'un grand roi qui s'appelait Tariakoy. Et il y a eu une guerre, un peu comme ce qui se passe en Ukraine, dans laquelle tout a été dévasté, mais une guerre entre populations amérindiennes. Tout a été dévasté, et ces deux enfants se retrouvent orphelins, et ils errent dans les rues, et ils deviennent des mendiants. Mais ils sont deux princes, ils sont les neveux du grand empereur du Michoacán, mais ils sont devenus des mendiants, ils errent dans les rues, ils se cachent, ils creusent des terriers, ils se cachent dans les terriers, ils vont dans les marchés, et là j'ai repris des phrases de la relation de Michoacán dans la nouvelle. Quand ils demandent à manger, on les arrose avec des louches de soupe. Bon, ben, on les fait partir comme si c'était des chiens, on les arrose. Et donc ces enfants des frontières, ces enfants errants, sont toujours là. Et quand je les voyais, je me disais, il y a peut-être les descendants de Iripan et Tangachuan, c'est ces enfants qui circulent à travers les égouts, et que les Américains appellent des « street rats » parce que ils chapardent, ils passent la frontière, ils chapardent, ils retournent de l'autre côté. Bon. Mais peut-être que des descendants des princes et des princesses.
Mais par exemple, pour décrire leur quotidien, pour leur donner le vocabulaire, leurs relations, les nommer aussi, est-ce qu'il vous arrive de vous documenter, c'est-à-dire de regarder des documentaires, d'aller sur Internet, d'avoir un rapport à l'actualité à ces enfants comme les enfants au Congo ou ailleurs, un peu tous ces enfants des rues, quoi. Est-ce que ça nourrit votre écriture ou est-ce que c'est en dehors de...
Ça pourrait, mais c'est pas le cas pour ces enfants-là, parce que j'ai vécu très près d'eux à un moment donné, dans un quartier d'une ville mexicaine où ils étaient très nombreux. Donc je me souviens de leurs prénoms, leur nom, leur façon de parler. Et c'est pas difficile de les transcrire après en français. Donc, je me suis servi plutôt de mon oreille que de documentation. J'aurais pu aussi me documenter dans des films, mais ça n'a pas été le cas.
Donc, mais ça vous arrive de...
Ça pourrait m'arriver, Je ne sais pas si je l'ai fait, mais ça pourrait m'arriver. Ouais. C'est vrai, ça pourrait m'arriver.
Non, parce qu'on sait tellement...
J'aime bien me documenter à l'oreille, j'aime bien écouter les gens. Quand je suis à Paris, par exemple, rien ne me plaît plus que prendre les métros, les trains, circuler, écouter les gens parler. Et donc, je retiens des choses comme ça.
Et d'ailleurs, vous faites une transition idéale avec les fantômes de la rue, donc ces différentes stations de métro où vous rencontrez... Alors, cette série de nouvelles qui est regroupée sur les fantômes de la rue, vous en accordez l'idée à Ami.
Oui, c'est ma fille.
Mm-hmm. Et comment ça s'est passé? Elle vous a dit, papa, tu devrais... Non,
c'est une... J'ai toujours des histoires à raconter. Donc, ça, c'est une histoire en particulier. C'est l'histoire de ce monsieur qui était, je crois, sénégalais, habillé en costume militaire, assez âgé, un clochard, très imbibé d'alcool, qui se tenait au métro. À l'époque, nous vivions rue du Bac, ma fille et moi. Et donc, au métro Bac, il y avait ce monsieur qui ne demandait rien, mais de temps en temps, on lui donnait quelque chose, soit un morceau de pain ou un fruit, ou quelquefois de l'argent. Mais il ne demandait absolument rien. Mais il était là, debout, en bas de l'escalier roulant, dans la station de métro Bac. Et un jour, nous arrivons, ma fille et moi, et il était tombé dans l'escalier roulant, et il rebondissait de marche en marche. Il roulait sur lui-même, juste à descendre en bas de l'escalier, puis là, l'escalier le remontait jusqu'en haut, et là, il recommençait à tomber. Et c'était assez effrayant, il saignait, il a été blessé dans sa chute, toujours très alcoolisé, mais un homme assez élégant quand même. Et ma fille et moi, on le relève, et ma fille dit, il faudrait appeler peut-être le police secours, et là, il se met en colère en disant, pas de police, hein, pas de police. Donc, on l'aide à sortir de la station, on le conduit, et non loin de là, boulevard Raspail, il y a un hôtel 3 étoiles. Et là, on entre dans l'hôtel 3 étoiles, ma fille qui a l'air un peu, quelque chose d'un peu exotique, moi qui n'étais pas particulièrement bien habillé, et ce monsieur qui était élégant, mais habillé comme un clochard, on entre dans l'hôtel, et là, ils sont un peu inquiets de voir ce trio qui arrive. Et j'explique, voilà, ce monsieur était blessé, il faudrait le soigner. Et là, assez gentiment, ils l'ont épongé le sang qui coulait de sa figure, ils lui ont donné à boire un peu, un café plutôt que de l'eau. Et là, ils ont parlé de l'hôpital, et là, il s'est remis en colère en disant « Non, pas d'hôpital non plus ». Et donc, on l'a reconduit dehors, et là, il est parti en titubant. Et curieusement, après, on ne l'a jamais plus revu. Et cette rencontre a fait que ma fille m'a dit « Il faudrait écrire sur ces personnes qu'on croise tout le temps dans les rues, et dont on ne s'occupe pas trop, qui mendient ou qui sont simplement assis dans un coin de trottoir ou bien qui passent et qu'on ne voit pas et dont on ne parle jamais. » Et je me suis dit, c'est une très bonne idée. Et c'est elle qui m'a dit, il faudrait que ce soit un peu neutre. Non, il ne faudrait pas que ce soit un récit dans lequel, à la première personne, il faudrait que ce soit plus objectif. Ma fille est anthropologue, hein, il faut dire la vérité. Bon. Donc, ça a été vu d'un point de vue neutre.
Alors, il y a une jeune fille brune, quand même.
Oui, c'est elle. C'est elle que je l'ai inclue dans l'histoire, parce que c'était elle qui avait eu l'idée, et c'était elle qui m'avait amené à regarder. Depuis, je regarde ces gens, et c'est pas par pitié, mais ils ont quelque chose à dire, ils le disent quelquefois, ils disent « j'ai faim, donnez-moi à manger », mais la plupart du temps, ils sont une interrogation à laquelle on feint de ne pas répondre. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est difficile, très difficile.
Est-ce qu'ils répondent justement à ce qualificatif d'indésirable sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne ?
Oui. Indésirable parce que il n'appelle aucun désir, on n'a pas vraiment de désir de les connaître, on a plutôt désir de les éviter. Ce que faisaient les gens pour ce Sénégalais qui était tombé, ils l'évitaient, ils faisaient le tour, ils essayaient de l'enjamber ou bien de passer à côté. Mais eux-mêmes ne sont pas exempts de désir, ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin. Donc ils sont des indésirables, mais désirants. Des indésirables désirants.
Et d'ailleurs, ils sont désirants jusque dans les pires situations. C'est ce qui arrive à Marouane et Mehdi, qui sont donc les deux enfants de la guerre. Depuis des mois, des années, ils n'avaient cessé de marcher. Comment inscrivez-vous, alors là on peut parler de contes et de contes de fées, cette espèce de pas de baguette magique, mais au moins de bonnes fées qui arrivent sur le trajet de tous ces indésirables?
Je ne sais pas s'il y a une explication, mais c'est souvent même, ça vient de gens auxquels on ne s'attend pas. Dans Hané, donc, il y a ces enfants qui fuient la guerre, et à un moment donné, ils croisent des soldats. Et parmi ces soldats, il y en a un qui les voit, alors que la plupart ne les voient même pas. Et il les voit et il donne à boire aux enfants. Donc, je veux dire que même ceux qui sont de l'autre bord, du bord bon, de ceux qui font la guerre, quelquefois c'est ce rayon d'humanité qui passe en eux, qui fait qu'ils ont besoin de reconnaître l'existence, même d'enfants en haillons, ils ont besoin de reconnaître leur existence. Je ne sais pas si c'est une baguette magique, parce que ça ne va pas plus loin que d'offrir à boire, mais... Il y a une chanson de Brassens là-dessus qui parle de ce n'était rien qu'un bout de pain. Je ne me rappelle plus du titre de
L'Auvergnat, non ?
L'Auvergnat, voilà. La chanson à l'Auvergnat. Belle chanson. Alors, peut-être que c'est ma nature d'y croire.
Une volonté, presque une foi.
Oui, celle de Brassens, la foi du charbonnier peut-être.
En tout cas, moi j'ai pris cette nouvelle de Hané comme un peu comme ce que vous disiez au début de la berceuse. C'est une chanson pour traverser la guerre, cette nouvelle. Et ce que je voulais savoir, c'est à chaque fois que vous écrivez dans un lieu qui pour nous est souvent lointain. Enfin, quand je dis nous, c'est nous sommes aujourd'hui chez Gallimard, devant un jardin très beau, Paris 7e, Gallimard qui est donc publie votre œuvre et votre dernier recueil. On est souvent avec vous, loin de là où on se trouve. Et est-ce que vous avez besoin de, pour le lecteur, de situer cet endroit? Par exemple, là, on ne sait pas d'où viennent Marouane et Mehdi. Ils pourraient être les enfants de toutes les guerres, y compris celles dont on fête le douloureux anniversaire aujourd'hui de l'Ukraine.
Oui, c'est... Bon, en fait, ils viennent de No Man's Land. Et les No Man's Land, ce sont les endroits qui m'attirent, qui m'intéressent. Les endroits qui ne sont ni aux uns ni aux autres, qui sont souvent le théâtre de guerre, parce que ce sont des endroits qui sont revendiqués par de nationalismes généralement outranciers et très violents. Mais entre les deux, il y a des terrains vagues. Et je pense qu'on doit voir ça dans la guerre que nous vivons en ce moment. Des gens qui errent sans savoir s'ils sont ici ou s'ils iront là. Et en particulier les enfants. Alors c'est certainement lié à mes souvenirs d'enfant, parce que j'ai grandi pendant la période de la guerre et on ne savait pas où on était pendant la guerre. Je savais que mon père était en Afrique, ça c'était la chose qui était sûre, mais nous étions réfugiés dans l'arrière-pays niçois parce que nous étions britanniques. Donc j'étais certainement un corps étranger total pour les gens de l'endroit, qui étaient des montagnards. On n'avait rien à faire de citoyens britanniques, d'une dame, de ses grands-parents, de ses parents et de ses petits-enfants qui étaient britanniques et assez différents physiquement. Mais donc c'était un no man's land, je crois. Et cette impression de no man's land était accrue par le fait que nous étions hébergés dans un lieu où nous pouvions être à l'abri. C'était une cave. Nous étions hébergés dans la cave d'un immeuble un peu en dehors du village. Je me souviens très bien de l'endroit. C'était sombre, c'était poussiéreuse. Ça sentait la pomme de terre parce qu'il y avait des sacs de pommes de terre partout et nous puisions dans les pommes de terre pour manger. Donc c'était pas mal aussi. Mais cette impression de gris et d'obscurité, qui est l'impression que j'ai de cette époque-là, et de temps en temps la possibilité de sortir, et là, la beauté du pays, l'arrière-pays niçois, c'est très beau. Il y a un ciel d'un bleu très cru, le soleil qui brille. On restait un petit peu dehors. Ma mère nous emmenait nous baigner dans la rivière qui était la Vésubie, une rivière de montagne. Et puis on retournait dans le gris de cette cave. Donc, cette impression d'avoir vécu dans un endroit qui n'avait pas d'identité. Et je crois que ça m'a donné le goût de ces lieux qui n'ont pas vraiment d'identité, dans lesquels les enfants qui vivent la guerre se retrouvent, les enfants et les adultes très souvent. Et voilà, je crois que c'est pour moi ce besoin de recréer cette cave, peut-être, pour mieux comprendre ce que j'ai vécu. Et l'impression aussi de la mort. Les enfants très jeunes, j'avais 5 ans à la fin de la guerre, donc j'ai été vraiment très jeune. Je me souviens d'avoir su ce qu'était la mort à ce moment-là. Normalement, on ne sait pas ce qu'est la mort, mais un camarade de jeu avait sauté en portant une mine. Et donc, les gens sont arrivés, et comme ils savaient qu'on se voyait quand on sortait justement pour aller à la rivière, il était là, il nous emmenait, on se baignait avec lui. Et des gens sont venus, ont frappé à la porte, et ont dit, ce garçon s'appelait Mario, Mario est mort. Et moi, ça m'a frappé, Mario est mort. Et donc, Mario, on ne le verra plus, et c'est fini. Et après, tout ce qui est venu se greffer sur cette mort, des gens qui venaient dire « on n'a retrouvé de lui que ses cheveux ». Il a sauté tellement, il a tellement sauté avec sa mine qu'on n'a retrouvé que ses cheveux. Il avait des cheveux rouges, il était roux, le garçon. Et je me souviens de ses cheveux. En tout cas, je me souviens de ces gens disant « on a retrouvé ses cheveux ». Comment quelqu'un disparaît et ne laisse que ses cheveux ? Donc c'était la mort. Et je crois que ça a frappé mes souvenirs d'enfant. Je vis avec ce souvenir-là. Ce souvenir de... Parce que la mort, c'est de disparaître, on laisse ses cheveux. Ouais. Bon. Donc ça, c'est des morts très spéciales.
Oui, et très, avec des images forcément absolument inoubliables.
Oui, oui. Et donc, à chaque fois qu'il y a une guerre, et là, en ce moment, nous la vivons, moi, je pense aux enfants qui vivent cette guerre, pour lesquels il y a les bombes, il y a le manque d'aliments, la peur et... la mort, ils savent ce qu'est la mort, obligatoirement. Il y a des éléments de leur famille, des camarades qui sont morts, et ils connaissent ça. Et ce n'est pas le cas des enfants qui vivent en France, qui sont assez peu confrontés à ça, sauf en cas d'accident ou d'événements très dramatiques.
Mais c'est pour ça, sans doute, que Année est une nouvelle... particulièrement bouleversante. Et puis bon, on va aussi parler de la, je ne sais pas si ça s'appelle le désir de conviction que vous avez de, par exemple, quand les enfants font le rêve du bateau, c'est-à-dire de partir. Évidemment, ça nous ramène à tous ces problèmes d'immigration et d'accueil de ceux qui essayent de nous rejoindre pour obtenir des conditions meilleures. Donc là, vous rejoignez complètement l'actualité à travers pourtant quelque chose qui est malheureusement un peu éternel de la guerre. Alors, quand vous introduisez leur vision à eux depuis ce qu'ils vivent pour essayer d'accéder à un ailleurs, est-ce que là, il y a une volonté de convaincre quand vous écrivez, de convaincre le lecteur, l'autre de regarder ça vraiment, de le comprendre, de...
Oui, peut-être, oui, c'est bien possible. Mais en fait, cette nouvelle, c'est de tout ce corpus de nouvelles, c'est la plus ancienne, parce que je l'ai écrite à l'époque où j'écrivais Étoile errante. C'était un passage d'Étoile errante, et comme il n'avait rien à faire dans le livre, je l'ai enlevé à l'époque, je l'ai laissé de côté, et puis là je l'ai repris pour le publier comme si c'était un conte à part entière, à la différence près que j'y ai introduit un personnage auquel je tenais, qui était Hané, parce que vous parliez tout à l'heure du miracle qui éclaire la vie des indésirables ou des démunis, et ces enfants, leur miracle, c'est qu'ils rencontrent une jeune fille qui est à peu près leur âge, un petit peu plus âgée, et qui, comme elle est sourde et muette, n'a pas peur de la guerre. Et donc, à un moment donné, je crois que c'est Marouane qui dit qu'il n'a jamais connu quelqu'un d'innocent. Et elle est innocente parce qu'elle n'a pas peur. Elle est au-delà de la peur. Elle voit les avions passer, mais elle ne sait pas s'ils sont dangereux. Elle n'entend pas le bruit des bombes. Elle ne voit rien de... Elle ne perçoit pas le danger de la guerre. Donc, elle a une sorte d'aura, de capacité d'être... C'est pourquoi la nouvelle s'appelle Hané, pas Marouane. Elle a la capacité de guider le groupe des enfants qui va trouver un jour un bateau, qui sera accueilli et qui va vivre une nouvelle vie. Mmh. Et c'est parce qu'il y a Hané qui est... Et c'est parce qu'elle est innocente. Dans un monde où personne n'est innocent, même pas les enfants, puisqu'ils volent des bords le long de la route, ils dépouillent un avion pour aller vendre le métal, donc ils ne sont pas innocents. Mais elle est innocente.
Oui, parce que les enfants que vous décrivez, ces indésirables, ce n'est pas des saints non plus. Hein. Non. Vous n'êtes pas à côté d'eux en train de dire que... Non, non, ça, il faut bien le dire, parce qu'il y a toujours cette espèce de rumeur d'angélisme, de naïveté, de bons sentiments. Et je crois qu'on n'est vraiment pas là-dedans, quoi.
Oui, pourquoi ce sont des petits durs.
Voilà. Alors, justement, une chose à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui des handicapés, n'est-ce pas, ceux qui ont... Et je me souviens que Layla, dans Poisson d'or, elle avait perdu une oreille, n'est-ce pas, par mauvais traitement. Et on a souvent l'impression, ou alors un des enfants qui n'arrive pas à s'exprimer, ou... Qu'est-ce que ça dit des gens, de vos personnages, le fait qu'ils ne soient pas entiers, en quelque sorte, dans leur fonction que...
Oui, c'est... Je ne sais pas, je dois voir cette sorte d'obsession que les enfants qui sont handicapés, soit parce qu'ils sont autistes, soit parce qu'ils n'ont pas tout leur sens, soit parce qu'ils ont un handicap moteur, sont des enfants qui, par ailleurs, ont une sorte de privilège. Ça doit être comme un remords, comme une rengaine en moi qui fait que je pense qu'il doit y avoir cela pour compenser. Il faut qu'il soit compensé par quelque chose. Et je suis toujours ému quand je vais dans des... J'habite ou je passe à travers une population où il y a... C'est cette croyance que le handicap est compensé par capacité autre de comprendre et d'aimer ou de donner confiance ou d'avoir l'appui des forces surnaturelles. C'est dans les mythes, c'est très souvent le cas. Je lisais l'histoire du mythe d'Arcas, le roi Arcas. Avant d'être roi, Arcas était un enfant, et je crois que ce sont ses frères qui lui jouent un très mauvais tour. Ils le tuent et ils le donnent à manger à Zeus. Et Zeus mange l'enfant, et puis tout à coup il s'aperçoit qu'il est en train de manger un enfant. Alors il se met dans une rage folle et il reconstruit l'enfant qui était en train de manger, il le remet ensemble et il lui donne un royaume et ce sera l'Arcadie. Et il devient le roi de l'Arcadie. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Même les Grecs qui étaient particulièrement cruels dans leur légende Zeus pouvait compenser ses mauvaises actions, j'ai plein de mauvaises actions, en rendant son intégralité à un enfant qui a été mutilé par ses frères. Et donc, il doit y avoir toutes sortes de versions de ce mythe. Et donc, quand ça m'a donné certainement cette idée que, bon, c'est pas ça en particulier, mais j'adhère à l'idée que lorsqu'un enfant a un membre en moins ou lorsqu'il a un sens en moins, peut-être que Zeus l'a compensé par quelque chose.
En lui donnant un royaume.
Oui, un royaume, par exemple.
Alors on va, on est comme le temps, enfin notre temps touche à sa fin. Je voulais juste signaler aussi la parution d'un ouvrage qui s'appelle Le chemin continu, qui est consacré justement au cahier du chemin et à la maison d'édition de Georges Lambrus, qui est l'éditeur qui vous a publié, qui a publié votre premier livre. Et en fait, là, on vous voit très actif dans la revue des cahiers, comme on imagine que vous l'êtes au prix Renaudot, au prix des 5 continents. Et c'est une chose qui paraît... On ne sait pas très bien comment la faire cohabiter avec le reste de votre mode de vie qu'on imagine, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être de la vie littéraire ?
D'abord, je devrais faire l'éloge de Georges Lambrus, parce que c'était un homme étonnant. J'ai eu la grande chance d'envoyer mon premier manuscrit, le procès-verbal, à Georges Lambrus, parce que j'habitais Nice, je ne connaissais rien à l'édition, et un ami avait envoyé un manuscrit chez Gallimard, et Georges Lambrus lui avait répondu. Je ne sais pas si le manuscrit avait été pris ou non, je ne me souviens pas. Et il m'a dit, donc ça, s'il y a quelqu'un chez Gallimard auquel tu peux t'adresser. Alors, je fais une enveloppe et j'écris Georges Lambrus, édition Gallimard, j'envoie le manuscrit. Pas de réponse pendant assez longtemps, pendant presque un an, je l'avais complètement oublié. Un jour, je reçois une lettre de Georges Lambrus, dans laquelle il me dit, votre livre est formidable, on ne vous a pas répondu tout de suite parce qu'on le présentait au prix Formentor, qui était un prix qu'on attribuait sur manuscrit. Et c'était un très bon prix, c'était pour moi qui avais une vingtaine d'années, c'était génial parce que le prix, c'était un séjour à l'île de Formentora en Baléares. Bon, qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Et je n'ai pas eu le prix, c'est un écrivain allemand qui l'a eu, Hugh Johnson, qui a eu ce prix. J'ai un peu regretté, il a eu de la chance, lui. Mais le livre a été à ce moment-là publié, il était resté dans les tiroirs de Georges Lambrus, il a été publié, il a reçu le prix Renaudot, donc les gens m'ont dit, ah, vous avez de la chance. Je me disais, non, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu le prix Formentor. Mais c'est pour dire que Georges Lambrus, c'était quelqu'un j'ai eu la chance de m'adresser à Georges Lambrus, et ensuite d'aller plus tard, longtemps après, je suis allé à Paris, quand j'ai eu le prix Renaudot, je suis allé à Paris, j'ai rencontré enfin Georges Lambrus, et c'était un homme physiquement étonnant, avec son nœud papillon, sa bouffarde, et son côté très belge, que je trouvais tout à fait charmant. Et donc on a sympathisé, même plus que ça, on est devenus vraiment amis, on s'est tutoyé très vite, il m'envoyait des mots, et ce qu'il terminait par « ton Georges ». J'ai beaucoup aimé cette période-là. Donc, chaque fois qu'il m'a invité à quelque chose, à participer à sa revue « Les cahiers du chemin », ou bien à répondre à une enquête, je répondais. Donc, j'étais dans le mouvement littéraire grâce à lui. Et quand j'allais à Paris, il m'emmenait voir Le Monde. Il m'emmenait voir Madame Frank Jegold. J'allais voir Le Grand Monde. Je crois que ça n'existe plus trop, ça.
Grand Monde.
Les soirées littéraires dans lesquelles il y avait des gens comme Poland, des gens comme... j'ai pas rencontré Gide, mais j'aurais pu le rencontrer. C'était vraiment Le Monde qui était le monde des lettres à l'époque. Et Georges Lambrus ne voyageait pas, mais dans Paris, il voyageait beaucoup. Il allait beaucoup dans les salons littéraires. Et j'ai rencontré des gens impressionnants, comme Mandiargue, par exemple, c'était quelqu'un de très impressionnant. Queneau, qui était aussi... J'ai rencontré ces grands écrivains de l'époque, qui étaient des gens très impressionnants, qui avaient un passé, qui avaient traversé la période de la guerre. C'était très important. Et ça s'est un peu défait progressivement parce que d'abord j'ai cessé d'habiter en France. À l'époque j'habitais beaucoup en France. J'ai commencé à habiter un peu partout, aux États-Unis, au Mexique, dans des tas d'endroits. Et Georges Lambrix ne suivait pas du tout. Mais on se voyait, quand je revenais à Paris, je ne manquais pas d'aller le voir. Et donc j'ai fait partie de ce mouvement littéraire grâce à Georges Lambrix. Grâce à Mont-Georges. Mont-Georges m'a permis de rencontrer le monde.
Et ça vous est resté pour quelques incursions comme ça, au jury Renaudot, au jury 5 continents ?
Oui, alors le Renaudot, bah, c'est aussi par amitié. France-Olivier Gisbert, que je connais bien, et Patrick Besson, et m'ont accueilli très généreusement au Renaudot. Au début, j'aurais dit, mais vous savez, je ne suis pas là. Et j'ai composé un petit poème en alexandrin pour leur expliquer que je voyageais beaucoup sur la boule ronde et que je ne serais pas toujours présent, donc, mais que je resterais toujours en contact avec eux. Et le prix Renaudot m'importe assez parce que c'est un prix un peu de recherche, pas seulement un prix de consécration. C'est un prix qui est attribué à des gens très, très différents de ceux qui sont reconnus par le prix Goncourt. Donc, c'est un prix qui est utile, je crois. Mmh, et donc, Scholastique, Mukasonga, qui est, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Irène Mirovski aussi.
Mais oui. Qui n'était pas là pour le recevoir.
Qui n'était pas là pour le recevoir. Je trouve que c'est une bonne idée de célébrer une écrivaine qui avait été. Dont l'œuvre avait été interrompue par la persécution. C'est une bonne idée pour manifester que. La mort ne met pas fin à la littérature. Surtout que le livre qui était récompensé était inédit, donc c'était une bonne occasion. Mais bon, ça nous a été reproché.
De sortir des sentiers battus. Eh bien, en tout cas, merci infiniment pour cette causerie, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Et évidemment, je renvoie nos auditeurs à ce recueil de nouvelles ou de contes. Vous dites souvent contes. Avers, des nouvelles des indésirables parues aux éditions Gallimard où nous nous trouvons ce 20 février et je vous dis à bientôt.
Merci Valérie, merci de cette rencontre qui m'a beaucoup amusé.
Le point.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.